Bonjour tout le monde. Vous allez bien ce matin? Très, très content d'être avec vous ce matin pour poursuivre cette avancée, cette série qu'on a commencée il y a de cela quelques semaines sur l'Évangile de Luc et qu'on a tout simplement intitulé « Jésus, sauveur de l'humanité ». Simplement un titre très, très simple, mais qui résume assez bien l'esprit qu'avait Jésus, ou plutôt l'auteur de l'Évangile de Luc à propos de la personne de Jésus. Et depuis quelques semaines, enfin la semaine passée, on a terminé au tout début du chapitre 17. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est commencer à partir de ce chapitre, une section où est-ce que Jésus va aborder un sujet, disons, assez particulier. À plus de 10 reprises, à partir du chapitre 17 jusqu'à peu près la moitié du chapitre 19, Jésus va établir un point central. Il y a un thème qui tisse un peu une toile de fond à travers les deux chapitres et demi qu'on va voir ce matin. Et ce sujet-là, c'est un sujet bien particulier. C'est le sujet du royaume de Dieu. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais entendu ce concept-là ou ce terme-là, le fait d'un contexte de royaume de Dieu. Depuis quand Dieu a un royaume? Peut-être que pour vous, c'est un sujet extrêmement loin de vos préoccupations. Ce qu'on va voir ce matin, c'est que c'est un sujet extrêmement important. Important parce que, alors même que Jésus sait qu'il va être mis à mort, il s'en va vers Jérusalem avec ses disciples, il sait très bien dans sa tête que l'endroit où il s'en va, il va passer par des heures pénibles et des souffrances atroces. Pourtant, il va directement. Intentionnellement, il s'en va à cet endroit-là. Et il va prendre du temps pour expliquer à ses disciples pourquoi il s'en va vers Jérusalem. Je m'en vais vers Jérusalem parce que ma vie est en train de servir une cause si importante et tellement de qualité que je ne peux pas faire autrement que de m'y consacrer totalement. Cette vie-là, cette cause-là pour laquelle je suis en train de m'en aller vers l'endroit où je sais que je vais souffrir jusqu'à la mort, cette cause-là, c'est le royaume de Dieu. Et cette cause-là, il n'y en a pas une dans votre vie, les disciples qui sont autour de moi, là, il n'y en a pas une pour laquelle vous pouvez vous consacrer qui a autant de valeur que celle pour laquelle je suis en train de le faire. Peut-être que vous vous demandez ce matin, c'est quoi exactement ce royaume-là? Quelle est cette pensée-là que Jésus avait qui l'a dirigé vers Jérusalem pour donner sa vie sur la croix, sa vie parfaite? Ce matin, j'aimerais simplement qu'on dresse un aperçu. C'est quoi ce royaume-là exactement? Quelle est son importance? Pourquoi est-ce que je devrais m'y attacher avec autant de radicalité que Jésus lui-même l'a fait? Eh bien, simplement pour donner un espèce d'aperçu de ce que c'est exactement le royaume de Dieu, je vais laisser ce matin la parole à mon frère Stéphane. Il va se faire un plaisir dans les prochaines semaines de démêler c'est quoi le millénium. Je suis très content de savoir ça. Je pense que je vais te laisser mon cellulaire pour que tu puisses m'enseigner là-dessus. Alors, ce matin, on va aller dans l'Évangile de Luc, au chapitre 17. Et Stéphane va nous lire les versets 17, 20, excusez-moi, les versets au chapitre 17, les versets 20 à 33. Juste pour donner un aperçu de qu'est-ce que c'est le royaume. Et après la lecture, on va faire un voyage ensemble pour essayer de comprendre qu'est-ce que Jésus voulait qu'on comprenne exactement par là, pour consacrer nous-mêmes notre vie à ce royaume-là. Alors Stéphane, sans plus tarder, je te laisse la parole.
Et je vais vous lire ça dans la nouvelle édition Genève. Donc Luc, au chapitre 17, et les versets 20 à 33. Les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu? » Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, « Il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirez voir un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, « Il est ici, il est là. » N'allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme à son retour, en ce jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera.
Merci Stéphane. Merci Stéphane pour la lecture de ce texte assez lucide, où est-ce que Jésus exprime vraiment de manière assez claire que le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement quelque chose d'important, ce n'est pas seulement quelque chose de noble, de vertueux, c'est quelque chose de vital pour chacun d'entre nous. Et ce que Jésus dit d'une certaine manière dans le texte, c'est que le royaume de Dieu, d'une certaine manière, de nos vies en dépend, de notre destin en dépend, de notre avenir en dépend. Et si on voulait en fait résumer ce que Stéphane vient de nous lire en une seule phrase, voici ce qu'on pourrait dire. Dieu, dans ce texte, nous offre d'apprendre à considérer notre vie comme un service rendu pour le seul royaume qui en vaut vraiment la peine, le sien. Dieu nous offre d'apprendre à considérer notre vie comme un service rendu pour le seul royaume qui en vaut vraiment la peine, le sien. Autrement dit, ce que Jésus ici essaie de nous faire comprendre, c'est que c'est illusoire de penser que notre vie peut être menée de manière neutre et objective. Tout ce qu'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on pense, c'est toujours motivé par quelque chose auquel on aspire. Et Jésus, d'une certaine manière, appelle cette aspiration-là pour laquelle on dit, on fait ou on pense des choses, un royaume. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous faisiez, le célèbre chanteur Bob Dylan disait « You gotta serve somebody ». Dans ta vie, tu sers quelqu'un. Tu sers un royaume. Et c'est ce que Jésus ici nous dit d'une certaine manière. Peu importe ce que l'on fait dans la vie, on sert quelque chose. Il y a une raison pour laquelle je pense de cette manière-là. Et la première chose que Jésus dit à ce sujet, c'est que le royaume de Dieu, c'est une réalité spirituelle dont l'être humain ne peut pas se passer. Le royaume de Dieu, c'est une réalité spirituelle que l'être humain ne peut pas se passer. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que dans le texte qu'on vient de voir, au verset 17, au chapitre 17, ce que Jésus nous dit à propos du royaume de Dieu, c'est que c'est un raz-de-marée, c'est un tsunami, c'est un cyclone qui emporte tout sur son passage lorsqu'il va être manifesté. Donc, le royaume sur lequel on construit notre vie, un jour va être révélé à la grandeur du royaume de Dieu, et que si notre royaume personnel ne correspond pas à l'idéal ou au royaume de Dieu, qu'il n'y a pas d'atome crochu entre les deux, eh bien, ce sur quoi on bâtit notre royaume va être balayé de la carte, va s'écrouler comme un château de cartes. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont se dire, « OK, Miguel, je comprends que le royaume de Dieu, tu dis qu'il est puissant, qu'il est extraordinaire, qu'il est valorisé, que c'est la plus belle chose qu'il puisse avoir, que c'est le plus puissant. OK, mais s'il existe ce royaume-là, qu'est-ce qu'il attend pour se manifester? » Parce que quand on regarde autour de nous, qu'est-ce que vous voyez? Ce matin-là, je lisais encore sur ma tablette 6 Québécois qui périssent au Burkina Faso. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là pour faire du bien à un pays pauvre puis qui sont morts dans un attentat. Comment qu'on appelle ça? On appelle ça un drame. On appelle ça un abus de la vie. On appelle ça une injustice qui se produit. Alors, si le royaume de Dieu est si puissant que ça, comment ça se fait que des drames peuvent se dérouler dans nos vies, que des injustices, des abus qui peuvent se produire? Parce que c'est important de comprendre que si le royaume de Dieu est bien réel, il faut comprendre aussi pourquoi on vit dans un monde où ce royaume-là, parfois, nous semble imperceptible. Ce n'est pas parce qu'il est imperceptible qu'il n'existe pas. Regardez, par exemple, ce que dit Jésus à ce sujet au chapitre 17, tout début du chapitre 17, à partir du verset 1. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait de ses petits. Prenez garde à vous-même. » Ce que dit ici d'une certaine manière Jésus, c'est que Le règne de Dieu, son royaume, la manière dont il gère le monde, c'est pas incompatible avec le côté parfois dramatique de la vie. C'est pas compatible, au contraire, le règne de Dieu est plutôt une preuve qu'on ne peut pas se passer de ce royaume pour faire face au monde troublé dans lequel nous vivons. Imaginez un instant que vous vivez dans un monde où est-ce qu'il se passe toutes sortes d'atrocités, mais que Dieu est complètement absent, que vous n'y pensez même pas. Eh bien, ce que la plupart des humoristes au Québec font comme déduction à ce moment-là, c'est qu'ils tombent dans l'ironie, ils tombent dans le sarcasme. À quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert de vivre? À quoi vaut la valeur de la vie s'il arrive autant d'abus, autant de scandales? Dieu ne peut pas exister. Il arrive trop de choses mauvaises qui me prouvent qu'il n'existe pas. Bien au contraire. Le fait qu'il existe des injustices sur terre nous prouve que nous avons absolument besoin de ce royaume-là pour y faire face de manière positive et ne pas tomber dans le sarcasme et dans l'ironie. Prenez par exemple l'histoire au chapitre 18. Qui nous est raconté d'une veuve. Une veuve qui a subi une injustice et qui là fait appel à un juge. Et là, elle est fait appel deux fois, trois fois, quatre fois. Le juge ne veut pas l'écouter. Il y a d'autres choses à faire, comprenez-vous. Mais le juge, finalement, la veuve, elle le harcèle tellement que le juge finit par se dire, « Bon, ben regarde, avoir été de m'achaler, là, je vais finir par l'écouter puis je vais lui rendre justice, juste pour qu'elle arrête de m'achaler. » Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon motif? Est-ce qu'on peut dire que c'est votre idéal de justice, que c'est ce qui correspond à l'idéal de Dieu, ça? Mais non! Et pourtant, la veuve a obtenu justice. Eh bien, regardez ce que Jésus dit au chapitre 18, au verset 6. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, il lui a rendu justice. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? » Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi encore sur la terre? Ce qu'on voit ici, c'est que Jésus essaie de nous dire ce que la veuve a expérimenté. Elle a obtenu justice. Puis toi, en tant que croyant, qui sers la grâce de Dieu, tu penses que lui... Il fera pas pour toi ce que le juge inique il a fait pour la veuve qui subissait une injustice. C'est beaucoup plus grand que ce que cette veuve-là a obtenu le royaume de Dieu. D'une certaine manière, le règne de Dieu est une réalité spirituelle bien plus grande qu'a expérimenté cette veuve, mais que ce royaume-là, il est en lutte. Il est dans un monde troublé et qui n'a pas encore eu la victoire. Elle s'en vient. Christ l'a accompli à la croix. D'une manière totale, mais elle attend encore d'être manifestée pour amener à lui tous ces gens vers son royaume de grâce. Dans ta vie, dans nos vies, il y a toujours un royaume sur lequel on se consacre. Ça peut être le confort, la sécurité, la famille, nos loisirs, même le plaisir. Tous nos sens sont bombardés par des désirs auxquels on aspire et qui correspondent pour nous à un idéal de vie. Mais ce que Jésus dit ici, c'est d'une certaine manière, méfie-toi, prends garde au royaume sur lequel tu es en train de construire ta vie. Parce que le mien, un jour va arriver, il va se manifester parfaitement, et qu'à ce moment-là, tous les royaumes de la terre qui ne correspondent pas au mien, bien ce qui va arriver, c'est que je vais te laisser avec tout ou avec rien du tout. Mon royaume, est ce royaume qui laisse tout à celui qui est dedans ou qui ne laisse rien du tout? De quel côté ce matin te situes-tu? Est-ce que pour moi, ce royaume de Dieu, c'est quelque chose parfois auquel tu penses? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu pries comme cette veuve qui n'arrêtait pas harceler le juge inique? Et en tant que croyant ou même en tant qu'être humain, est-ce qu'on se dit, Seigneur, je vois de l'injustice autour de moi? Est-ce que je demande à ton royaume de se manifester et d'intervenir à ce moment-ci de ma vie dans tel pays où est-ce qu'il est en train de se passer telle chose, dans la vie de mon frère ou de ma sœur qui est en train de passer par un cancer, dans ma vie personnelle parce que je me sens tellement affaibli par différentes situations dans la vie, par mon patron qui me met de la pression. J'ai besoin de ton royaume intervenir. J'ai besoin de le voir en action. Souvent, devant ce qui nous paraît dramatique ou injuste, on baisse les bras. On se résigne, on traite la vie à la légère, avec sarcasme. Il est même possible de devenir indifférent face à la misère humaine. Prenez le soir si vous écoutez les nouvelles. On ouvre les nouvelles à Radio-Canada, on voit toutes sortes de choses qui peuvent nous scandaliser, nous horripiler, nous effrayer. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est trop pas beau, là, je vais changer de chaîne. Et là, on zappe. On zappe pour tout voir. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus intéressant que je pourrais voir? Parfois, en tant que Québécois, on est indifférent à la misère humaine. Et on ne voit pas le royaume de Dieu comme quelque chose que l'humanité ne peut pas se passer. Ce que mon voisin a besoin, oui, c'est que je sois généreux avec lui, c'est que je sois hospitalier, c'est que je sois sensible à ce qui peut se passer autour de moi. Mais à ce moment-là, c'est qui le roi? Mais c'est encore moi qui interviens dans le monde injuste dans lequel je vis. Et je ne crois pas dans ce grand royaume qui surpasse mes propres capacités pour prier, intervenir envers une situation injuste qui ne fait pas mon affaire, qui ne correspond pas à mon idéal. Est-ce que pour toi, le royaume de Dieu, c'est quelque chose dont tu ne peux pas te passer? Imaginez, là, ceux qui ont de jeunes enfants, imaginez, là, votre petit dernier rentre dans la maison avec ses bottes pleines de neige, et par insouciance, il se met à monter les escaliers et à un peu faire du, comment je pourrais dire ça, ben du lavage là, sur votre plancher, mais pas le lavage dans le sens que vous voudriez peut-être. Là. Est-ce que ça correspond à votre idéal de vie ou de ménage, ça? Est-ce que ça correspond à au royaume de propreté ou d'agrément d'une maison dans laquelle vous vous sentez bien, cette situation-là? Comment je vais réagir? Bien sûr, j'ai un enseignement à faire à mon enfant sur le respect et l'ordre, mais comment mon cœur va se réagir face à cette situation précise-là? Est-ce que tu dis, hey, écoute, le bonhomme, là, tu viens d'écraser puis de salir le royaume que ma pensée, ça fait 2 heures de temps que je suis en train de laver mon plancher, là, tu viens de détruire tout le travail que je viens de faire. Mon royaume de ménage, de propreté, là, c'est lui que j'étais en train de servir pendant les 2 dernières heures. Puis là, je vais réagir à colère envers toi parce que tu viens de salir le royaume que je suis en train de servir. Ce que le Seigneur est en train de nous dire ici, c'est que l'idéal que tu es en train de servir d'avoir une maison propre, oui, ça peut me servir dans certaines occasions. J'aime l'ordre, mais j'aime pas que tu serves l'ordre. J'aime que tu me serves, moi, en tant que roi de l'ordre, qui a créé l'ordre, et non pas de servir ma créature, qui est l'ordre, ce que j'ai créé pour toi. Mais je veux que tu sers le royaume qui est moi. Je veux que tu prennes le temps de considérer que c'est moi qui règne sur ta vie, c'est moi qui te motive à dire, à faire les choses. C'est pas l'ordre, c'est pas la propreté, c'est moi en tant que roi. Et ce que va nous dire Jésus au sujet de son royaume, au sujet de la manière dont il veut que le royaume grandisse, bien regardez ce qu'il va nous dire, c'est que le royaume de Dieu, ce n'est pas nécessairement un endroit ou un moment de bien-être profond. Souvent, on pense que le royaume de Dieu, ça peut ressembler à un nuage rouge où il n'y arrive que du bonheur. Bien, le royaume de Dieu, ce n'est pas ça, nous dit Jésus. Et c'est là mon deuxième point ce matin, mais le royaume de Dieu auquel Jésus est appelé à servir et qui s'est consacré, c'est le fait que le royaume de Dieu, c'est le fait de savourer la présence d'un roi serviteur qui désire nous bénir. Le royaume de Dieu, c'est le fait de savourer la présence d'un roi serviteur qui désire nous bénir. Une des choses dans notre vie qu'on recherche tous, c'est le fait qu'il n'y a rien de fâcheux qui arrive. Tout arrive pour le bien. Idéalement, si vous me demandez, Miguel, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu voudrais que ce à quoi ta vie ressemble? Bien, je voudrais ça. J'espère qu'il n'y a rien de fâcheux qui va arriver puis que tout va toujours arriver pour le mieux. Ce qui n'est définitivement pas le cas. On espère que le royaume va nous faire vivre comme dans les nuages, sans rien de difficile ou d'ardu ou de pénible se vivre autour de nous. Un jour, ça va être comme ça. Pour les gens qui font partie de nos royaumes, j'ai dit, tu vas être dans ma ville, tu vas être dans mon royaume. J'ai une vie fantastique à t'offrir. Mais pour l'instant, mon royaume ne correspond pas à ça. C'est ce à quoi ils veulent ressembler. Pour l'instant, mon royaume est en lutte contre d'autres royaumes dans lesquels tu essaies de construire ta vie. Regardez ce que Jésus dit au sujet de son royaume. Chapitre 17, verset 21. Voici ce qu'est le royaume. Chapitre 17, verset 21. Le royaume de Dieu, là, c'est Jésus qui parle à des gens qui lui demandaient à quand est-ce qu'il va venir le royaume? On voit qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent autour de nous, puis nous, on ne le voit pas, ton royaume, là. On voit juste de l'abus, de l'injustice, des choses où est-ce qu'on est dominé. Quand est-ce qu'il va venir ton royaume? Et regardez ce que dit Jésus. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et Jésus parlait de lui-même ici. Jésus nous dit ici que le royaume de Dieu ne se trouve pas dans les éléments ou les circonstances dans lesquelles nous vivons, mais qu'il se trouve en lui. Jésus est ce royaume. Il est la présence, l'incarnation de ce royaume tout-puissant qui renverse tout sur son passage, qui va renverser tout sur son passage. Jésus est en train de nous dire, je suis le roi. Et moi, je suis au milieu de vous. Je suis le roi de ce royaume et je suis ici parmi vous pour donner un sens à ce qui parfois ne vous en fait pas. Est-ce qu'il y a des choses qui se passent parfois dans votre vie qui arrivent et que vous ne comprenez pas pourquoi que ça arrive? Vous n'avez aucune idée du planning de Dieu là-dedans. Vous ne savez pas pourquoi cette chose-là arrive, mais elle arrive. Mais ça arrive constamment, ça, dans nos vies. Pourquoi un enfant tombe malade? Mon grand-père est décédé cette semaine. Bon, je savais qu'il allait mourir, mais pourquoi, Seigneur, tu es venu le chercher à ce moment-ci? Et il a fallu que je l'explique ça à ma petite fille et à mon petit garçon de 11 et 10 ans. Excusez-moi, 10, je leur ai donné une année de plus. 10 et 9 ans. Et ils n'avaient pas si souvent vu que ça, leur grand-père. Peut-être 3-4 fois, ils restent très, très loin. Et pourtant, là, c'était les pleurs. Il dit, mais voyons donc, ils l'ont pratiquement jamais vu. Mais il y a un attachement. Il est arrivé quelque chose si dramatique. Ou est-ce que j'aurais voulu éviter ce drame-là à ma petite fille, à mon petit garçon? Ça l'arrive! Est-ce que ça remet en cause le royaume de Dieu? Non! Ce royaume-là va plutôt leur servir à composer avec cette situation difficile-là pour en sortir grandi et expérimenter le fait que, Seigneur, j'ai besoin de ton royaume pour faire face au monde difficile dans lequel je vis. Ce que le Seigneur est en train, ici, d'une certaine manière, est en train de nous dire en nous disant, le royaume de Dieu est au milieu de vous, c'est que je suis le royaume c'est moi, vous avez besoin de moi, vous avez besoin que j'étende ma présence et mon royaume en vous. Ce n'est pas à vous entrer dans mon royaume, c'est moi qui vous y fais rentrer. C'est ce que, d'une certaine manière, Jésus nous dit. Il dit, vous êtes trop faible, trop vulnérable, vous n'êtes pas assez grand pour entrer dans mon royaume aussi grand qu'il est. Donc moi, je vais descendre sur terre et donner ma vie pour vous par grâce, pour vous faire entrer dans mon royaume moi-même. C'est moi qui veux s'attribuer ce rôle-là. Ce n'est pas à vous à y rentrer, c'est à moi à vous y faire rentrer. Regardez par exemple ce que Jésus dit au chapitre 18 aux disciples qui essayaient d'empêcher les enfants de venir à lui. Les enfants venaient vers lui et regardez ce que Jésus dit à ses disciples lorsqu'il essaie de les en empêcher. Au verset 16, Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Quel est le défi ici que Jésus nous lance? Quelle est l'attitude dans laquelle Jésus nous propose ici d'entrer dans son royaume? Eh bien, ce qu'il nous propose, ce n'est pas un geste qui est banal. Il nous propose, il nous invite à la crédulité. Il nous propose la foi, de laisser sa grâce, la grâce de sa vie parfaite, donnée à la croix, rentrer à mon cœur, laisser cette vie qui a été ressuscitée par Dieu pour me faire rentrer moi-même dans le royaume, ne pas y entrer parce que je suis fidèle, parce que je prie 3 fois par jour, parce que j'éduque bien mes enfants, parce que j'exerce la générosité autour de moi. Ça, c'est des fruits de ce que le royaume produit en moi. Mais ce n'est pas mon entrée dans le royaume. C'est ce que Jésus est en train de me dire ici. Accepte-moi comme un enfant, accepte ce que son parent prenne soin de lui et qu'il devienne dépendant de lui. Laisse-toi, d'une certaine manière, fais ce que cet aveugle a fait au chapitre 18. En sortant d'une ville, il y a un aveugle qui se tue dans une foule. Jésus est en train de sortir de la ville. Et là, l'aveugle lui crie. Il dit, Seigneur, Seigneur, il y a une foule autour de lui. Il crie fort son nom pour attirer son attention. Il sait que Jésus peut faire quelque chose pour lui. Donc, au lieu de voir le danger ou l'obstacle de la foule qui pourrait l'empêcher d'attirer l'attention de Jésus, bien, il fait juste crier plus fort pour attirer son attention. Et qu'est-ce que Jésus fait? Eh bien, il finit par l'entendre. Et à lui dire ceci, simplement, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il lui dit, recouvre la vue. Ta foi, ta crédulité en moi t'a sauvé. Elle t'a fait entrer dans mon royaume. Ce gars-là, cet aveugle-là, il a cru dans un roi serviteur qui désirait le bénir. C'est ce qui fait que Jésus l'a entendu et s'est approché de lui et qu'il l'a guéri. Que son royaume a pu étendre dans la vie de cet homme-là. Il y a cru. Est-ce que vous aimeriez que le royaume de Dieu s'étende autour de vous et qu'il fasse du bien? J'espère que oui. À ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on ne le prie pas assez? Eh bien, on manque de foi. On manque de foi tout simplement que le royaume de Dieu peut faire la différence dans le monde troublé dans lequel nous vivons. Et pourtant, Jésus est ce roi serviteur qui nous est présenté ici comme celui qui peut faire avancer le royaume, qui a donné toute sa vie pour le royaume. Vous savez, Jésus aurait pu faire à peu près n'importe quoi d'autre que d'aller à la croix. Il aurait pu choisir la facilité. Il aurait pu décider de mettre son énergie ailleurs en évitant les endroits où sa vie risquait d'être mise en péril. Mais il a décidé d'en faire autrement. Il a décidé d'être un roi serviteur pour servir un royaume où il savait que chacun d'entre nous aurait la possibilité d'être béni et de donner notre vie pour quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Si Jésus a donné sa vie à la croix volontairement, c'est parce qu'il savait très bien que le royaume de Dieu valait largement la peine de ce qu'il était en train de servir. C'est une cause qui, pour lui, n'avait aucun équivalent. Il savait que la cause qu'il était en train de servir valait la peine et que cela lui impliquait, que cela lui coûte quelque chose. Quand on sert quelque chose, qu'on sait que ça vaut la peine, on sait que ça va nous coûter quelque chose au bout du compte. On sait qu'il va y avoir un sacrifice à faire pour payer ce prix-là. Il va y avoir une décision à prendre. Est-ce que je mets mes énergies à tel endroit ou plutôt à tel endroit? Et ce que Jésus nous dit d'une certaine manière, et c'est là mon dernier point ce matin avec vous, c'est que le royaume de Dieu nous appelle tous, je dis bien tous, pas juste lui, à un engagement radical qui ne fait pas dans la dentelle. Le royaume de Dieu nous appelle tous à un engagement radical qui ne fait pas dans la dentelle. Et c'est ça que Jésus voulait que ses disciples comprennent. Comprenez que je suis en train de servir un royaume qui est le plus grand de tous. Et ce que je veux, c'est que vous embarquiez avec moi dans ce royaume-là et je veux que vous le serviez comme moi-même je le sers. Moi, je vais me donner pour ce royaume-là. Bien, faites la même chose que moi. Consacrez vos vies à ce royaume-là exclusivement. Le royaume de Dieu, on y entre par grâce, par la foi et la repentance en ce que Jésus-Christ a accompli pour moi sur la croix. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose que je ne mérite pas, mais que Dieu désire quand même me proposer, m'offrir comme mode de vie, comme idéal de vie. Il m'embarque dans son royaume de manière gratuite, par la foi dans ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Mais en même temps, ça n'enlève pas le côté radical, catégorique et intransigeant de ce royaume-là. Dans le texte que nous a lu Stéphane tout à l'heure, on voit très bien qu'un jour, le royaume de Dieu va être révélé par rapport à tous les autres royaumes sur lesquels on consacre notre vie et que, qu'on le veuille ou non, le royaume de Dieu va l'emporter et qu'il va nous laisser avec tout ou avec rien du tout. Ce royaume-là n'en tolère pas d'autre. Il exige l'exclusivité. C'est exactement de cette manière-là que Jésus a vécu. C'est exactement de cette manière-là que Jésus a vécu pour le royaume de Dieu qu'il représente. Il a été impérativement servi, ce royaume-là, par le don de sa vie parfaite sur la croix. Et c'est ça que Jésus ici est en train d'enseigner, à ses disciples. Vous pensez que vous avez tout consacré, que vous avez tout quitté pour moi, pour me suivre? Attendez une minute, ce n'est pas fini. Des petites nouvelles pour vous. Ce qui s'en vient, ça va être encore plus difficile. Et ce que je demande, ce que je vous invite, ce que je vous consacre, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce royaume-là, ça vaut la peine qu'on s'y investisse totalement et radicalement. Prenez par exemple ce que Jésus nous dit au chapitre 17, au verset 33. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra. Si tu essaies de consacrer ta vie à un royaume où tu peux juste passer du temps à bien faire les choses, puis vivre comme un peu tout le monde pour manger, boire, élever tes enfants, planter, semer, comme on le faisait au temps de Noé et de Lot, eh bien, dis-toi une chose, tu vas perdre ce que tu as. Mais que celui qui perdra sa vie, eh bien, il va la retrouver. C'est-à-dire que si tu refuses de consacrer ta vie à un royaume terrestre, ben tu vas en servir un autre céleste, le mien, pour donner un sens à tout ce que tu fais ici-bas sur terre. Et ça ne veut pas dire ne pas apprécier ce que Jésus nous a donné ici sur terre. C'est bien d'aimer une bonne bouffe, d'aimer ça, prendre du temps avec nos enfants. C'est bien d'avoir du plaisir à faire du sport, avoir des hobbies et aimer ce que l'on fait. C'est bien de regarder une partie de sport. Je suis un fan de foot. En ce moment, là, c'est la grosse saison. Et j'aime ça regarder ça. Est-ce que je m'attache à ça nécessairement comme une passion puis un royaume dans lequel je suis en train de servir? Non, je l'apprécie comme un acte d'adoration même envers Dieu. Pour vous, ça vous semblez bizarre, là. Mais quand je vois Aaron Rodgers qui fait une belle passe, là, ben moi, pour moi, c'est « wow, c'est impressionnant ». Pour moi, c'est un acte d'adoration envers Dieu. C'est de m'extasier devant quelque chose devant laquelle Dieu a permis que l'homme est capable de faire. Pour vous, peut-être que ça vous dit absolument rien, là. Mais pour moi, ça me touche, ça me rejoint. C'est une manière de servir Dieu que de regarder un bon match de football. Jésus nous dit que Jésus, je savais que vous ne comprendriez pas, mais ce n'est pas grave, je ne m'attends pas à ce que vous ne me compreniez pas. Ce qu'on voit ici, c'est que d'une certaine manière, Jésus nous donne l'exemple. Il nous donne l'exemple d'une vie qui est consacrée et investie au bon endroit. Jésus nous dit ici dans ce texte-là, notamment au chapitre 19, que dans notre vie, on ne peut pas courir après deux lièvres à la fois. Tu ne peux pas courir après deux royaumes. Il faut que tu fasses un choix. Regardez, par exemple, cette histoire d'un roi au chapitre 19 qui décide de donner de l'argent à ses serviteurs pour que pendant qu'il s'en va faire un voyage, bien, il puisse en tirer profit pour lui. Puis à son retour, ils vont pouvoir lui donner les bénéfices de l'argent qu'ils vont lui avoir donné. Puis vous vous souvenez, il y a un de ses serviteurs-là, bien, il se décide, lui, écoute, je sais que c'est un roi intransigeant, je sais que c'est un roi qui est prêt à tout faire pour réussir, donc je vais juste y redonner l'argent qu'il m'a donné au début, puis je vais m'asseoir sur l'argent qu'il m'a donné, puis rien faire. Alors que eux autres, bien, ils ont simplement tiré profit pour leur en donner plus de ce qu'ils avaient reçu. Et comment le roi réagit? Vous vous souvenez comment le roi réagit? Regardez au verset 24 du chapitre 19. Il dit à ce serviteur-là qui a pris son argent, qui s'est assis dessus puis qui lui a juste redonné quand il est revenu, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Et lui dire, « Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas notre même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. » Si on a affaire ici à un roi qui fait dans la dentelle? Pas vraiment. On ne voit pas nécessairement un Dieu qui accepte tout le monde sans compromis. On voit un Dieu serviteur qui prend soin des gens qui acceptent qu'il règne totalement sur eux. Et souvent dans nos vies, Dieu est simplement une petite case qu'on veuille bien lui accorder. Une petite case où est-ce que, ben, dans ma vie, il y a ma famille, dans ma vie, il y a mon emploi, dans ma vie, il y a ma maison, il y a mes amis, il y a mes loisirs, puis ici, là, il y a la case Dieu le dimanche matin dans laquelle je m'en viens, là. Puis Dieu, il rentre dans cette case-là. C'est pas ce royaume-là que Dieu t'offre. C'est pas ce royaume que Dieu offre à ses disciples. Parce que le royaume qu'il offre à ses disciples, c'est un royaume où, voici, j'ai mon royaume, et dans ce royaume-là, mon emploi est une case. Mes enfants sont une case. Ma famille, ma propriété, mes hobbies sont une case, qui sont tous reliés à ce royaume-là. Et il faut vraiment faire attention dans nos vies que la grandeur du royaume de Dieu, ce qu'il veut faire dans nos vies, c'est prendre tout l'espace qui lui convient, un espace qui est intransigeant, qui est catégorique, parce qu'un jour, il va se manifester. Et ce qu'il est en train de dire à ses disciples, c'est « Prenez garde au royaume sur lequel votre vie est en train d'être construite. » Je vous pose la même question ce matin. Sur quel royaume ta vie est en train d'être construite ce matin? Est-ce que Dieu, pour toi, est un roi serviteur qui désire te bénir et qui, par sa grâce, veut te faire entrer dans ce royaume ou tu es quelqu'un qui veut mériter le royaume de Dieu? Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est quelque chose qu'on accepte. Ça, on n'a pas le choix. Il est trop grand pour qu'on puisse penser même le mériter. Mais ce qu'il essaie de dire à ses disciples, c'est « Parce que je vous y ai fait rentrer par grâce, maintenant, mon attente, c'est que vous serviez ce royaume-là totalement, comme moi-même, je vous sers totalement, et je vous sers totalement pour vous y faire rentrer par la croix en donnant ma vie parfaite pour vous. » Ça, c'est l'Évangile. Je n'ai rien à faire pour entrer dans mon royaume. Tout ce que j'ai à faire, c'est de croire dans ce que Dieu veut, désire m'offrir pour moi à la croix. Et ensuite vient le fait d'une radicalité, d'une intransigeance, dans le fait que je sers ce royaume pour lequel Dieu a donné sa vie. Voilà comment Dieu désire m'apprendre à consacrer ma vie de manière à ce que son royaume soit servi. Le seul qui vaut la peine, le seul qui va un jour va exploser et nous laisser devant tout ou devant rien. D'une certaine manière, ce que Dieu nous offre ici, c'est un peu ce qu'il a dit à ce jeune homme riche, qui s'est avancé devant lui, qui a dit, « Seigneur, Seigneur, dis comment je peux faire pour obtenir la vie éternelle? » Et là, le Seigneur, il savait très bien que ce jeune homme-là avait un problème avec l'argent, que ce jeune homme-là, son royaume à lui, c'était l'argent. Et là, il met tout de suite le doigt sur le bobo, il lui dit, « Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. » Puis après ça, il lui dit une phrase très intéressante. Qu'est-ce qu'il lui dit de faire après? « Viens et suis-moi. » C'est ce à quoi nous convie le royaume de Dieu. Voir Jésus, voir son royaume qu'il nous offre, le considérer vraiment pour ce qu'il est et le servir. Venir à lui, suivre Jésus. Mon ami, est-ce que tu te situes ce matin dans ce royaume? Parce que sinon, il y en a un autre qui règne dans ta vie. Puis il ne résistera pas au jour où le royaume de Dieu va vraiment se manifester pour ce qu'il est. Puis si tu es déjà dans ce royaume-là, peut-être ce matin, grâce à la vie de grâce que Dieu a donnée, on va avoir des baptêmes ce matin, c'est une preuve que Dieu agit encore dans la grâce. La question qu'il faut se poser alors, c'est, OK, maintenant que Dieu m'a intégré dans son royaume, bon, ben c'est plus le temps de faire des économies de bout de chandelle. Il m'a intégré dans un royaume aussi grand que lui. Et ce qu'il veut faire, c'est m'intégrer dans ce royaume-là. Et pas le faire en faisant juste de la broderie, pas juste de la dentelle. Ça existe, ça exige le même engagement par lequel Jésus lui-même a été sur la croix. C'est la grâce qu'il veut t'accorder ce matin. C'est la grâce qu'il veut nous accorder. Que ce soit avec nos enfants, avec notre conjoint, avec notre petit groupe, avec le ministère dans lequel on met en charge l'Église, que ce soit avec nos voisins, avec nos patrons, avec nos collègues de travail, Dieu nous convie à cette phrase-là et nous dit « Viens et suis-moi. » Que dans tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, mon royaume, ce soit lui que tu sers. Et que tout ce que tu fais dans la vie puisse être centré sur le fait que je suis un roi serviteur qui désire te bénir et qui désire faire grandir ce royaume de Dieu dans un monde injuste dans lequel nous vivons. Voilà la réponse que Dieu a à offrir pour le monde dans lequel nous vivons. Le monde troublé, sa propre personne qu'il a donnée à la croix pour faire une différence dans chacune de nos vies mais dans celle également de nos voisins, de mon professeur, de mon parent. On va juste ce matin prendre un temps, juste pour se courber, remercier Dieu pour cette grâce qu'il nous a permis de nous offrir son royaume, mais d'être capable de également le considérer et de voir nos vies simplement comme des vies qui sont capables et dont Dieu nous appelle à nous engager totalement pour le seul royaume qui vaut la peine, le sien. Courbons-nous. Seigneur éternel, Créateur de l'univers, Père du ciel et Créateur du royaume de Dieu. Tu incarnes tout parfaitement. Et parfois, c'est difficile de voir, Seigneur, à quel point tu es parfait dans le monde troublé dans lequel on vit. On voit parfois que c'est difficile, c'est imperceptible ta présence, ton règne, beaucoup de choses ardues, pénibles qui sont autour de nous. Seigneur, apprends-nous à te suivre, malgré parfois nos doutes, à aiguiser notre foi. Et à dire comme ces disciples qui étaient devant toi, Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi pour mieux croire en toi, mieux croire en ton royaume, le seul qui vaut vraiment la peine d'être servi. Seigneur, nous ne voulons pas que nos vies ne servent à rien. Nous voulons qu'elles soient utiles pour toi. Apprends-nous à vivre et à nous consacrer comme toi-même t'es consacré à l'humanité dont nous faisons partie. Tu as osé donner ta vie, tout en sachant que cela te coûterait quelque chose. Apprends-nous à ne pas compter, Seigneur, ce que nous perdons de notre liberté, mais à compter ce que nous gagnons en investissant dans ton royaume, qui un jour va parfaitement se manifester. Merci, Seigneur, pour cette grande cause qu'est ton royaume, auquel tes disciples ont été exposés. Et puisses-tu nous y faire entrer, grandir et croître comme tu le désires, afin qu'il puisse faire la différence autour de toi, autour de nous, autour de notre monde. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qui va revenir un jour nous faire promptement justice et établir parfaitement son royaume.